Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy. Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma d'Aligre FM 93.1. À ma gauche, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Salut Thomas.
Salut Charles.
Et moi-même, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant au dématérialisé qu'au digipack introuvable de films inconnus. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué, c'est moi qui prends les rênes de l'épisode. Pourquoi ? Parce que nous sommes en été et que Thomas a déclaré une grève personnelle de toute ambition estivale. Et comme il n'avait rien prévu, j'en ai profité pour lui imposer un petit programme sur mesure. Thomas ?
Oui.
Donc tu es journaliste, photographe, réalisateur et aussi un farouche opposant à tout ce qui est dessiné. Tu détestes tout simplement l'animation, j'ai envie de dire. Tu trouves ça bizarre, inutile ou réservé aux enfants. Et soyons honnêtes, et je te cite, hein, aux imbéciles, aux analphabètes et aux instables émotionnels. Évidemment, il valide chaque mot. Vous ne pouvez pas le voir, mais je vous assure, là, il n'est pas en train de se marrer. Là, juste, il hoche la tête pendant que je parle. Il acquiesce avec dignité. Alors voilà le programme. Trois films animés. Trois propositions bien distinctes pour tenter de soquer un peu ses certitudes. On va voir s'il change d'avis ou s'il campe sur ses positions comme tombon réactionnaire du 7e art. Popcorn et Banjo, la 10e, c'est maintenant.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Et avant de commencer l'émission, Thomas, tu voulais nous parler d'un film qui s'appelle Reflet dans un diamant mort. C'est à toi.
La grosse claque que j'ai pris visuellement cette année, enfin ce mois-ci, c'est le nouveau film de Katay et Forzani, qui est donc ce duo de réalisateurs qui font des films extrêmement radicaux visuellement. Et je dois dire que ce film-là, avec Fabio Testi dans le premier rôle, était assez extraordinaire. C'est un film totalement intense, c'est un film qui parle aux tripes, c'est un film émotionnel, c'est un film sensitif en fait. Je trouve qu'il y a des, il y a peut-être en termes d'écriture de dialogue, il y a des petites choses à redire. Je suis moins fan aussi du personnage de Fabio Testi jeune, mais voilà, sinon je trouve que c'est un très très grand film à voir absolument en salle et moi ça me donne envie de découvrir tous les films de ce duo.
Ah tu les as, c'était la question que j'allais te poser, t'en as vu aucun?
Non, c'est le premier que je vois.
Comment dire, j'ai envie de dire que c'est, ils ont pas une filmographie compliquée, mais je suppose que si t'as aimé celui-là, tu devrais sûrement aimer les autres qui sont peut-être un peu, de ce que j'ai entendu en tout cas, qui sont peut-être un peu moins expérimentaux.
Ah mais ça c'est poussé, mais ça se tient, c'est ça qui est très fort, c'est que ça a beau être radical, ça se tient. C'est étonnant, on y croit quoi, on est plongé dans ce film et c'est plutôt bien écrit parce que ouais, on retombe toujours sur nos pattes au fur et à mesure de l'histoire.
D'accord.
Et puis c'est intéressant, c'est un film qui ouvre un petit peu sur l'animation parce que une des choses que je trouve souvent le plus compliqué dans les films d'animation que j'ai vu et j'en ai pas vu beaucoup, c'est la narration. Et souvent on est perdu narrativement dans un film d'animation tellement il y a de richesses visuelles. Et pour le coup, ce film-là qui est un film live, Reflet dans un diamant mort, ne tombe pas dans ce piège-là. Ça a beau être extrêmement riche, bizarrement, ils arrivent à tracer une narration qui fonctionne. Et pour finir, je voulais juste pointer du doigt un film d'animation, un court-métrage qui s'appelle Une fugue, et réalisé par Agnès Patron, et qui va sortir, qui n'est pas encore sorti, qui a été produit notamment par Arte. Et voilà, c'est un film de 12 minutes, quelque chose comme ça, avec une bande originale composée par un certain Pierre Oberkampf, et la bande-son est extraordinaire. Et le film est très très beau, c'est un film qui parle du deuil, de l'oubli, de la culpabilité, de l'abandon, du rapport frère-sœur, et c'est vraiment un film très poétique, très joli, avec une animation, alors je ne suis pas un expert, mais que j'ai trouvé absolument divine. Donc voilà, à surveiller quand ce film sera disponible sur Arte.
Très bien. Fugue. Très bien, merci Thomas pour tous ces beaux films que nous verrons certainement au cinéma. Nous allons tout de suite enchaîner avec notre premier film, qui va être donc The Plague Dogs, réalisé en 1982 par Martin Rosen. C'est adapté du roman de Richard Adams, ils avaient déjà travaillé ensemble sur un autre film qui s'appelle Watership Down, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez le Chat qui fume, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, The Plague Dog, beaucoup plus compliqué à trouver celui-ci, mais vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Je ne vous ai rien dit. En tout cas, The Plague Dogs, ça nous parle de deux chiens échappés d'un laboratoire d'expérimentation animale qui sont en cavale à travers les paysages hostiles de la campagne anglaise. Le film est très noir, assez nihiliste, lent et cru. Un anti-Disney et un vrai film d'horreur avec des animaux. Et c'est par là qu'on va commencer, parce que si Thomas doit aimer un film d'animation, ce sera peut-être celui qui passe entre les mailles de son mépris. Alors, alors Thomas, qu'as-tu pensé du film ?
Je vais me faire détruire toute l'émission. Écoute, d'abord, je me suis demandé si c'était une adaptation du même roman dont a été tiré Deux hommes en fuite.
Ah.
Parce que déjà l'affiche du film est similaire à l'affiche de Deux hommes en fuite, et je me suis vraiment demandé si Deux hommes en fuite était une adaptation du même roman où ils auraient coupé juste la partie laboratoire et on commence avec Malcolm McDowell et Robert Shaw qui courent. C'est très très similaire.
Eh bien, c'est vraiment là, c'est Richard Adams qui est un auteur à la base de livres, qui a écrit donc Watership Down et donc les chiens de la pestilence, je crois en français. Et en fait, avec ce réalisateur-là, avec Rosen, ils vont en fait travailler ensemble d'abord sur Watership Down en 78, si je ne dis pas de bêtises, avant de faire The Plague Dog en 81, du coup.
Et je te confirme que ce n'est pas le même auteur, parce qu'ensuite j'ai fait ma petite recherche, donc c'est simplement un hasard. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de The Plague Dogs ? Je te le dis bien, comme ça. On... Écoute, j'ai beaucoup aimé. C'est marrant que tu dises que c'est un espèce de Disney sombre, parce que tout de suite je me suis dit qu'en termes de traits il y avait quelque chose de l'ordre du Disney dans le trait des chiens, etc. Et évidemment, en revanche, dans l'histoire, dans ce qui se passe, dans les péripéties, on est complètement à l'opposé. Non, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça hyper à la fois très terre à terre et très poétique. Toute la dernière partie est extrêmement belle. S'il faut chipoter, je dirais qu'il y a des petites longueurs au début, mais j'étais vachement touché par les deux chiens, en particulier celui qui a un pansement sur la tête, qui est joué par... Enfin, en fait, ce sont des chiens donc qui ont l'usage de la parole. En tout cas, ils communiquent entre eux comme des humains. Et c'est John Hurt qui fait la voix de ce chien. Et voilà, je trouve hyper incarné, hyper intéressant. J'ai adoré le style visuel du film. J'ai adoré qu'il y ait comme ça des tableaux figés qui se mélangent à des... Bah, comme du matte painting, en fait, qui se mélangent à des à de l'animation pure. Et ouais, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé qu'on voit peu les chasseurs, en fait. Et c'est aussi pour ça que ça me renvoyait à Deux hommes en fuite. On voit jamais, en fait, les ennemis. Et ouais, bon, c'est vraiment un parallèle qui m'a travaillé tout le film. Mais globalement, j'ai trouvé ça très riche, très intéressant. J'ai adoré la première partie, que j'ai trouvé dure, vraiment. En plus, moi, je suis un dog lover, donc j'ai mal vécu la première partie. Et puis, j'ai passé un très bon moment et j'étais vraiment intéressé. Et c'est vrai que ce qui peut me gêner dans l'animation, c'est le côté... Mais je pense que tout le monde va se révolter, mais parfois un peu enfantin. Et je dois dire que dans les films que tu as choisis, je n'ai ressenti ça dans aucun des films que tu as choisis. Donc, il faut que je creuse un petit peu le sujet.
Bah, c'est sûr que là, les trois films qu'on a sélectionnés sont vraiment dans une lignée de films vraiment plus pour adultes. C'est vraiment pas l'animation qui est faite pour les enfants. Ou alors, à part si t'as vraiment très envie de les traumatiser, quoi. Quand on va parler de Mad God, je pense que on arrive à un point assez violent. Pour ce qui est de The Plague Dog, je dirais que la version qu'on a pu voir avec Thomas, c'est la version donc dite longue, qui dure 1h40. Ah, une version plus courte qui est de 10-15 minutes plus courte.
Oh, waouh.
Ouais, mais ils ont enlevé en fait toutes les parties les plus violentes du film pour on va dire pour un peu contrer la censure de l'époque, parce que le film a pas si bien marché, tu t'en doutes, vu les thématiques et on va dire le traitement des dessins animés à l'époque, en tout cas qui était encore des Disney animés pour adultes qui n'étaient pas encore vraiment très présents, tu vois, à part au Japon.
Le réalisateur a eu une carrière assez expéditive en tant que réalisateur, en tout cas.
Quoi. Ah oui, mais de toute façon, c'est tu te doutes bien que c'est un projet quand même très très casse-gueule, quoi. Et le film, je vais tout de suite dire moi ce qui me plaît pas dans ce film, c'est que il fait 1h40 du coup et vraiment tu les sens passer quand même. Le film est, je trouve, un peu trop long.
Au milieu, ouais.
Ouais, il y a un moment où, de ventre mou, tu t'ennuies quand même grave. Et c'est pas forcément dommage. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il veut parce qu'il y a une espèce de routine. On voit les jours qui passent. On voit le premier jour, ils s'enfuient. Deuxième jour, on passe un mois avec ces chiens-là. Et on voit les moments un peu, parfois flottants dans la campagne anglaise. Puis après, on va voir les moments de chasse qui sont très rudes. Puis après, les amitiés qui peuvent se faire avec les animaux de la forêt. Enfin, en tout cas, une espèce d'amitié, autour du meurtre et de pouvoir manger. Mais donc du coup pour moi c'est vraiment une espèce d'anti-Disney avec des animaux qui parlent, avec même l'incroyable voyage, quoi. Il y a un truc un peu comme ça avec des animaux qui essaient de retrouver leur maison.
Ouais, carrément.
Et qui potentiellement ne la retrouveront jamais, on ne sait pas. En tout cas, je ne vous le dirai pas. Et du coup moi c'est quand j'ai découvert ce film, il m'a vraiment beaucoup marqué par son réalisme et par son dessin assez cru et assez le dessin animé te prend vraiment pas du tout par la main, il est très âpre. Et ça, dès le début du film, où on voit un chien nager dans une espèce de cuve d'eau immense. Ouais, ouais. Et en fait, il y a des scientifiques qui le chronomètrent pour attendre qu'il se noie. Et ça, on te met directement dans le bain de, ok, voilà qui ils sont et comment faire pour s'échapper de ça, quoi.
Ouais, et puis il y a quelque chose d'assez fort et étonnant dans ces chiens, c'est qu'ils sont à la fois très humanisés parce qu'ils parlent. Et puis en parallèle de ça, ils sont extrêmement, ils retournent à une nature, ils sont très bestiaux, quoi. Ils dévorent des cadavres, et je trouve que ça c'est vachement ambigu et intrigant, et ça charge le film d'une couleur. C'est difficile de. On est à la fois complètement avec eux et évidemment la dernière partie, on est 100% avec eux. Et en même temps, il y a une espèce de gêne, quoi. Il y a un truc un peu étonnant. Et de toute façon, toute la tonalité du film est grise aussi dans ses couleurs, je trouve.
Eh ben, ça ressemble bien à l'Angleterre. Hein, Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où en fait, à aucun moment, on va te mettre un peu de joie dans ce film, quoi. Faut se dire que quand on mate ça, faut vraiment être dans des bonnes dispositions parce que sinon ça te plombe. Hein. Les seuls moments un peu de joie qui arrivent, c'est des moments un peu de rêve qu'un chien a deux trois reprises. Mais ces moments de rêve sont aussi dus au traitement qu'on lui a fait subir. Donc il y a quelque chose comme ça d'assez éprouvant continuellement entre la faim, la folie, la haine qu'ils peuvent avoir pour les hommes, la colère qu'ils ont, qui est assez bien traité et tout en avec, enfin en tout cas on va dire on les il y a de l'anthropomorphisme, mais le réalisateur arrive quand même à montrer leur côté très animal.
Ouais, complètement.
Et c'est ça qui est très très fort dans ce film.
Et la fin est très belle avec l'inversion aussi ouais. des rêves. Ça hyper beau.
La fin est très très jolie, c'est vrai.
Aligre FM 93.1.
Avant de continuer davantage, nous allons mettre un petit morceau de musique. Aujourd'hui, pas de chronique.
Très bien.
Pas de chronique. Nous allons parler, parce que là, comme je te tiens là sur l'animation, on va continuer un peu à parler de tout ça. Mais donc, avant ça, nous allons écouter un petit Linda Ronstadt. Thomas, est-ce que tu peux le redire en mieux?
When will I be loved?
Merci, Thomas.
Well,
Vous êtes toujours sur la Ligue FM et vous écoutez Popcorn and Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Nous allons passer tout de suite au deuxième film, Thomas, que nous venons tout juste de voir. Donc comme ça, tu es vraiment là, tu es à point, tu vas être cueilli comme ça pour nous parler du film qui est peut-être le plus compliqué à discuter parce que il y a quand même une narration, contrairement à Mad God. On va voir tout ça, mais en tout cas, ce film, c'est donc Paprika, sorti en 2006 et réalisé par Satoshi Kon, moi, un de mes auteurs favoris et aussi majeurs du cinéma d'animation japonais. Il s'initie son dernier long métrage avant sa disparition prématurée en 2010. C'est adapté d'un roman de Yasutaka Tsutsui et qui raconte comment un prototype expérimental qui permet d'entrer dans les rêves des patients pour y pratiquer une forme de thérapie et qui va en fait, cette machine à rêve va être déréglée par quelqu'un ou quelque chose et c'est là où le rêve déborde peu à peu sur la réalité. Le film mêle science-fiction et psychanalyse dans un ballet assez vertigineux. Et ici, pas de récit linéaire, mais vraiment une histoire qui va progresser par glissement, par rupture, par collision entre les plans de la réalité. C'est troublant et parfois quand même assez déroutant. Et je tiens aussi à souligner quand même la musique de Suzumu Hirasawa, que je trouve absolument incroyable. Mais alors toi, Thomas, est-ce que tu as trouvé une porte de sortie dans tout ce chaos ?
Écoute, ouais, alors déjà, merci de me faire découvrir tous ces films, parce que c'est des films qui marquent, c'est clair. Effectivement, la musique est dingue. D'ailleurs, même quand tu as mis le 4K Blu-ray, je me suis tout de suite demandé, il y avait la musique sur le menu, quoi. Et je me suis tout de suite dit, mais attends, mais ça c'est une reprise, c'est un truc, c'est parce que ça me ramenait dans plein de musiques que j'aime. Bon, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, je pense que j'ai pas tout compris, on va pas se mentir, mais c'est pas très grave. Je pense que de manière générale, il y a certaines choses qu'il faut pas chercher à comprendre et se laisser emporter, quoi. L'important, effectivement, c'est ce croisement entre le rêve et la réalité, ce choc entre le rêve et la réalité, et le fait que il y a une machine qui permet d'entrer dans les rêves des gens, quoi, en gros, et qu'on perd le contrôle de cette machine et que ça tombe dans les mauvaises mains. C'est à peu près ce que j'ai compris narrativement du film. Maintenant, visuellement, j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé... Il y a une forme de noirceur aussi, évidemment, mais j'ai trouvé ça plutôt lumineux. Je me sens obligé parce que j'ai pas cette connaissance approfondie du cinéma d'animation, donc je me sens toujours un peu obligé de revenir vers le live et de faire des parallèles, mais je trouve qu'il y a des liens forts avec des films comme Existence de Cronenberg et à moindre niveau, mais quand même il y a quelque chose de l'ordre de Matrix aussi dans ces gens qui sont sur des tables, qui sont connectés, qui sont en danger dans leurs rêves et potentiellement et ces deux films-là sont des films que j'aime, c'est des univers qui me parlent, et donc de voir ensuite le potentiel comme ça d'animation, jusqu'où ça peut t'emmener, c'est quelque chose de très fort. Il y a une... C'est extrêmement inventif, c'est très fluide aussi. Là, pour le coup, je trouve que il y a pas vraiment de creux, peut-être un tout petit moment au début où ça bavarde un peu, mais globalement, c'est une plongée dans un univers... où les couleurs sont extraordinaires, les formes, il y a, tu sais, toute la scène de déformation quand un des personnages principaux, le flic, essaye de retrouver Paprika et qui traverse comme ça un écran, il y a des effets visuels qui sont très impressionnants comme si ça rajoutait une dimension, tu vois. On n'est plus ni en 2D, ni en 3D, il y a un espèce de rapport bizarre au dessin dont j'ai pas l'habitude et que j'ai trouvé hyper intéressant, ouais.
Oui, de toute façon, là, en plus, là, j'essaie aussi contextualiser un peu le package que je t'ai fait, mais parce qu'en fait, on fait dans l'ordre chronologique vraiment en termes de temporalité, c'est-à-dire que Plague Dog est sorti dans les années 80, donc c'est encore du dessin en celluloïde, fait à la main. Là, on passe sur Paprika, qui date de 2006, et qui, lui, est fait complètement en animation, on va dire, par ordinateur. Donc là, ça permet aussi de on va dire de dessiner vraiment de plein de façons différentes. C'est-à-dire que l'animation 3D, enfin l'animation par ordinateur, te permet de faire aussi de l'animation 3D, te permet de faire beaucoup plus d'effets.
Oui,
et de toute façon, après, c'est un film qui a forcément aussi beaucoup plus d'argent que Plague Dog, mais il y a quand même ce truc-là où on rentre dans une nouvelle ère vraiment de l'animation aussi, et je trouve que Satoshi Kon, de toute façon, est vraiment pour moi certainement l'un des plus grands réalisateurs, en tout cas d'animé. Moi, je vous conseille vraiment de voir Perfect Blue, Tokyo Godfather, etc. Enfin, vraiment, il a fait que 4 films, donc c'est simple, vraiment. Et c'est pour moi, c'est très personnel, hein, mais pour moi, c'est que des chefs-d'œuvre. Et moi, je t'ai proposé Paprika plutôt que Perfect Blue, qui est son tout premier film. Parce que Paprika a ce grain de folie supplémentaire. Déjà, Perfect Blue, c'est dingue. Mais Paprika a un truc supplémentaire dans sa construction, justement, dans son rapport à la réalité, au rêve. Et comme tu disais, ça rappelle Matrix, ça rappelle... C'est vrai, Existence, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc-là de... On ne sait jamais dans quelle boucle on est. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans la fiction?
C'est la dernière phrase d'Existence. Ouais. Il dit « Are we still in the game ?»
Ouais, exactement.
Il y a un peu de ça, tu vois.
Oui, on rentre vraiment dans des... Les parois des réalités deviennent très poreuses et on ne sait plus du tout où on est. Et c'est vrai que Paprika, il faut vraiment... Moi, je l'ai vu, je pense, 4-5 fois maintenant. Et au bout du troisième visionnage, tu commences à comprendre, en fait, qui sont les personnages, comment c'est possible, pourquoi il y a des avatars, enfin, des personnes de la vie réelle qui ont des avatars, et pourquoi d'autres non. Et... Enfin, c'est un film qui est très dense, qui pousse en fait les choses vraiment au maximum. Et ça que j'aime, c'est ça vraiment que j'aime dans Paprika et que j'aime aussi dans les autres films que je t'ai proposés.
Mais je suis sûr que, tu vois, contrairement à Plague Dogs, Paprika, c'est effectivement un film que tu peux revoir, et je pense que tu peux le revoir et ne jamais voir le même film, en fait. Et ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Il y a tellement de richesses, il y a tellement de personnages à l'écran, il y a tellement d'objets animés, de choses qui se passent, que clairement, tu peux voir 10 fois le film, et en fait, je pense que là, toi et moi, on n'a pas vraiment vu le même film, quoi. Et ça, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Plague Dogs, on l'a vu, on l'a assimilé, on l'a vécu, on peut le revoir, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un film excellent, mais ce sera toujours la même chose, quoi, à quelques détails près. Là, vraiment, c'est un film qui a des dizaines et des dizaines de couches de lecture, quoi, ou en tout cas d'angles à travers le, ouais, d'angles d'approche et de, je sais pas s'il a des dizaines de niveaux de lecture, comme on dit d'un livre qui a du premier, deuxième, troisième, quatrième degré, etc. Mais en tout cas, il y a tellement d'angles depuis lesquels tu peux regarder l'image. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Si tu regardes l'image de la gauche vers la droite, tu vas découvrir tout un univers qui sera très différent que si tu regardes l'image de la droite vers la gauche. Et ça, je trouve ça hyper riche et hyper excitant, quoi.
Et déjà, sur ces deux films que je t'ai montré, est-ce que toi qui... Bon, encore une fois, c'était plus pour la vanne qu'autre chose, en disant que tu n'aimais pas le film d'animation, mais c'est vrai que c'est pas un cinéma que tu regardes beaucoup. En tout cas, c'est pas un genre qui t'intéresse non plus de façon enfin de dingue. Déjà sur ces deux premiers films présentés, est-ce que t'as l'impression que ça change un peu ta vision de vraiment de ce qu'est l'animation, de effectivement ce regard aussi là plus du tout enfantin qu'il y a dans ces deux films, mais même est-ce que t'as l'impression tu pourrais te dire, tu vois, parce que ça te fait penser à Matrix, ça te fait penser à Existence, est-ce que tu pourrais te dire aussi c'est des films que tu verrais que t'aurais plus faire en live, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te dis quand même pourquoi faire de l'animation alors que tu pourrais faire un film classique?
Ouais, c'est marrant, je comprends. Je me suis pas posé la question. Je me suis plutôt posé la question inverse par rapport à Paprika, en me disant ça a du sens de le faire en animation parce que c'est tellement riche qu'il y a plus de limites sur ce que tu peux dessiner. Alors après, l'animation ça coûte extrêmement cher. Je dis pas qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, mais en tout cas il n'y a pas de limite dans ce qui est possible d'inventer. Mais j'ai pas remis en question le fait que ces films existent en animation et pas en live, et je trouve que il y a une certaine évidence à ce qu'ils soient en animation. Je pense que Plague Dogs m'a beaucoup plus touché. Et je pense que j'ai un rapport à la narration, et pourtant j'aime bien les films qui sont pas forcément narratifs, mais je sais pas, je pense que dans l'animation, le côté entre guillemets linéaire de Plague Dogs m'a amené à m'attacher au personnage un peu plus que dans Paprika. En revanche, évidemment, Paprika, tu prends une claque visuelle colossale, folle, avec des moments assez dingues. Mais bizarrement, je pense que dans les années, il me restera peut-être plus un peu un goût de Paprika, mais enfin, tu vois, une
ce côté hongrois qui ressort, ça.
Voilà,
encore,
hein. Exactement. Mais en revanche, de Plague Dogs, je suis sûr qu'il m'en restera beaucoup plus. Toute l'histoire. Et voilà, ouais, c'est
peut-être parce que t'aimes beaucoup les animaux aussi.
C'est bien peut-être sûr. Ça. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. En fait, évidemment, il y a autant de variétés de films d'animation que de films live, tu vois. Et moi, j'ai moins les connaissances pour creuser là-dedans. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir deux films comme ça et de voir aussi, comme tu disais, l'évolution du dessin, du trait, etc. Et de voir qu'on peut raconter toutes les histoires qu'on veut en animation. J'ai du mal à je pourrais pas te dire pourquoi, j'ai du mal à m'attacher au, j'ai du mal à, par exemple, Princesse Mononoke.
Et ça me fait du mal quand tu dis ça à chaque fois.
Je sais, je le dis, mais moi j'ai du mal avec ce genre de film, j'ai du mal à accrocher. Mais là, je sais pas pourquoi j'accroche. La fin de Plague Dogs me touche beaucoup, beaucoup, tu vois. Princesse Mononoke, j'ai plus de mal, quoi. Et j'essaye de revenir de temps en temps à l'animation, mais.
Mais l'animation pas que japonaise, du coup,
j'ai pas été élevé avec les Disney, ouais, par exemple. Ouais, peut-être que ça joue.
Toi, t'as été élevé avec du western, mec.
J'ai été élevé avec du western. Non, mais c'est vrai, hein. Alors, j'ai vu des Disney, évidemment, mais j'ai pas été nourri au Disney. Mais j'ai du mal à connecter, en fait. Je sais pas trop pourquoi. Et je pense que il y a une forme de réalisme dans Plague Dogs, même si, évidemment, les chiens parlent entre eux, etc. Mais il y a une forme de réalisme qui me ramène à un alphabet, quoi, que j'aime et qui vient me toucher. Et là, je comprends le dessin. Après, évidemment que je reconnais la qualité visuelle des films d'animation que je vois, mais j'ai du mal à connecter à ces films-là. Mais les deux que tu m'as montrés me plaisent vraiment. Enfin,
et c'est vrai que Paprika, de toute façon, je suis assez d'accord, est beaucoup moins dans l'émotion. En tout cas, Paprika ne s'intéresse pas tant au personnage, il s'intéresse plutôt à, en fait, il y a quelque chose de très méta, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, dans Paprika, c'est quelque chose de très méta, même Satoshi Kon, tu vois, ce que je disais à un moment, il met ses propres films à l'intérieur, il y a tout un truc comme ça, où en fait, t'as un personnage qui aime juste le cinéma, et qui en parle, donc en fait, on est dans une salle de cinéma, qui est en train de regarder l'écran, l'écran est déchiré, enfin, tout un truc.
Il y a même une leçon sur le champ contre champ, quoi.
Ouais, exactement, la règle des 180 degrés. Ouais, il y a un truc comme ça où, en fait, Satoshi Kon, il a vraiment mis tout ce qu'il était dedans. C'est ça que je trouve touchant, mais c'est touchant parce que je commence à connaître un peu son travail, et non pas parce que le film en lui-même l'est.
Oui, tu peux le mettre en perspective.
Ouais, je vois le travail de l'artiste, mais je ne vois pas l'émotion dans le scénario en lui-même. Est-ce que tu as...
Moi, j'aimerais savoir, avant qu'on aborde Mad God, pourquoi t'as choisi ces deux films-là? Alors, tu m'as un petit peu expliqué pour Satoshi Kon, mais parce que t'avais vraiment une espèce de carte blanche totale, et au départ, tu voulais proposer du Michel Oslo?
Ouais, exactement, parce que ça... Non, pas du Michel Oslo, je voulais mettre La Planète Sauvage, je voulais mettre les trois films de René Laloux. Mais c'est vrai, mais c'est parce que ça, j'aimerais bien en faire un autre petit truc, enfin une autre émission, un de ces quatre.
Ouais.
Mais si j'ai pris ces trois-là, c'est parce que je me suis dit, il faut casser ce truc très enfantin, avoir des choses plus adultes, qui en même temps attisent un peu ta curiosité dans le sens où c'est des films qui sont pas, à part Paprika, qui sont quand même pas très connus. Et surtout trois films qui en fait s'ancrent très bien dans l'histoire du cinéma d'animation, c'est-à-dire un film dans les années 80, un film dans les années 2000 et un film en stop motion qui a été fait en totale indépendance. Ça, genre, on en reparlera plus tard. Mais c'est un peu, je voulais te montrer un peu un large panel en fait de ce que pouvait être le cinéma d'animation et ce que potentiellement ça pouvait apporter en termes d'esthétique très différent, en termes de narration très différente. Voilà, c'était un peu comme ça. Je trouve que c'était un peu un batch un peu parfait pour une pour une rencontre dans, autour du film d'animation.
Et en plus, en parallèle, moi, je me mets un petit peu au, à la BD un peu compulsivement, grâce à toi, notamment. Alors, moi, j'étais élevé avec les BD belges, franco-belges, etc., évidemment. Les Tuniques Bleues, Astérix et Obélix, Lucky Luke, enfin, voilà, les classiques. Mais je, depuis quelques mois, je pousse un peu, et figure-toi que je suis en train de lire mon premier manga.
Ah!
Donc, j'ai envie de dire avec à l'envers, etc.
Tu lis quoi?
Je lis Tomie, de Junji Ito.
Ok. Ah oui, ok.
Et j'ai mis, je pense, 100 pages à comprendre l'ordre de lecture des bulles, mais c'est pas si évident que ça.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Mais et d'ailleurs, je pense que je suis pas totalement sûr de ce que je lis, mais j'apprécie beaucoup. Et ouais, je pense que je suis en train de m'ouvrir aussi à tout cet univers-là. Mais bon, entre les deux que tu m'as proposé, c'est quand même le plus classique des deux qui
l'emporte pour le moment,
qui capture mon cœur.
On va avoir pour le troisième. Mais avant de parler de Mad God, je vous propose une petite pause musicale avec Dottie West, Country Sunshine.
You say you love me, and it's inviting to go where life is more exciting. But I was raised on country sunshine. I was raised on country sunshine. Green grass beneath my feet, running through fields of daisies, wading through the creek. You love me and it's inviting to go where life is more exciting. But I was raised on country sunshine. I was raised on country sunshine. I'm happy with the simple things. A Saturday night dance, a picture show, and the joy that the bluebird brings. I love you, please believe me. I wouldn't want you to ever leave me. But I was raised on country sunshine. There's just something about the morning that makes each day a joy, see. Nighttime brings a peaceful feeling to rest inside of me. I love you, please believe me. I wouldn't want you to ever leave me. But I was raised on country sunshine. Yes, you love me and it's inviting. Go where life is more exciting. But I was raised on country sunshine.
Aligre FM 93.1.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country.
Super top, hein, merci, parce que je n'arrive pas à... En fait, tu vois, prendre ta place, c'est vrai que c'est un vrai poids, et c'est dur, quoi. Vraiment, ça me fait stresser, hein. Je balbutie, je bave des mots, tout simplement. Alors, dernière étape de notre voyage dans le film d'animation, nous allons parler de Mad God, que vous pouvez retrouver chez Carlotta, dans un superbe coffret qui est juste ici dans ma collection. Voilà, soit dit en passant. Donc, sorti en 2021, réalisé par un vétéran des effets spéciaux, Phil Tippett, hein, qui a notamment travaillé sur Star Wars, Indiana Jones, Robocop, Jurassic Park, Starship Troopers et les 5 Twilight. Il bosse sur ce cauchemar visuel pendant plus de 30 ans, hein, avec des marionnettes pour la plupart faites maison, avant de le finaliser via 1, 2, 3, Kickstarter. Le film nous plonge dans un monde post-apocalyptique, hein, avec un assassin en scaphandre qui descend dans une cloche de plongée pour explorer les entrailles d'un monde corrompu. Et vraiment là, il y a très peu de narration classique, hein, pas de dialogue, on avance dans un cauchemar qui est visuel, sans carte ni boussole, hein. C'est sale, c'est viscéral et c'est vraiment très 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 dérangeant. Bref, c'est vraiment une performance d'artisan et vraiment pour moi c'est un vrai manifeste et un vieux pied de nez à Hollywood. Thomas, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as tenu jusqu'au bout ou tu t'es éteint quelque part entre la créature de chair molle, les hommes caca ou les bébés du radioactif?
Non, moi j'ai tenu clairement jusqu'au bout, c'est le genre de film qui me fait tenir jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que je trouve le film bon, je le trouve très inégal, mais il y a énormément à dire et bah c'est, ça fait plaisir de voir des films comme ça, c'est extrêmement intéressant. Premier plan, moi, direct, je vois... alors, j'ai vu des références partout, je sais pas si elles sont vraies ou pas.
Alors, dis-moi, parce que j'ai noté...
Ah, il y en a des officiels.
J'ai vu tous les bonus, en fait. J'avais
ouais,
okay. C'est pour ça que j'en étais... Les bonus qui sont très bien, d'ailleurs, dans le coffret.
Et ben, ah ouais, ok, ça m'étonne pas. Est-ce que Poncet et ont participé aux bonus ou pas du tout?
Je ne saurais pas te dire.
Qui avait fait tout un docu
Si, Poncet, ça me dit quelque
Alexandre
chose.
Alexandre Poncet.
Ouais, peut-être,
et,
ouais.
Ça m'étonne pas. C'est des spécialistes de la question. Et...
Ok.
Du premier plan, moi, je pense au tableau de Bruegel, la tour de Babel. Je sais pas si
oui,
c'est...
Oui, c'est une des références.
Ah ouais, c'est vrai? Ok.
Et c'est une des références qu'il a depuis qu'il a 5 ans.
Ah ouais, ok, waouh. Bon, c'est pas mon tableau préféré de Bruegel, mais j'adore Bruegel.
Bruegel et Bosch. C'est deux inspirations qu'il a, parce que son père était peintre.
C'est marrant, j'ai pas pensé à Bosch, mais c'est évident.
Son père lui a présenté quand il avait 5 ans, et en fait, c'est quelque chose qui l'a marqué, en fait, jusqu'à ses 70 piges, quoi.
Tout de suite, ça m'a plongé, tu vois, dedans, dans un univers qui m'intéresse, quoi. Et le deuxième, vraiment, que je trouve fort, la deuxième référence, mais par ailleurs, je ne l'ai pas lu, donc, c'est une référence auditive, on me l'a raconté, et je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait penser à la Divine Comédie de Dante et à l'enfer, et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'enfer de Dante, c'est une spirale descendante, et que, tu descends, en fait, tu descends dans une spirale, voilà,
c'est
exactement.
C'est ça que l'enfer, c'est comme dans
Salo. Ça m'a fait penser à ça, quoi. Ah ouais, tiens, j'avais pas fait le lien, je me souviens pas de ça, mais.
Salo et son jour de Sodome, t'as tous les cercles, t'as le cercle du sang, de la mer, de.
Ah ouais,
tu traverses les cercles des enfers.
Et ça m'a fait penser à ça aussi. Mais écoute, oui, moi je trouve que c'est une énorme proposition visuelle, énorme. Mais malheureusement, je trouve que le montage est pas dingue, c'est trop long. Toutes les scènes sont trop longues.
Un temps infini, hein.
Ouais. J'ai du mal avec la partie live aussi. Alors j'adore le stop motion depuis toujours. D'ailleurs, j'étais étonné. C'est vrai que c'est de l'animation, mais pour moi, la pâte à modeler et le stop motion sont deux genres que j'adore, enfin que j'aime énormément. C'est vraiment le dessin animé dans lequel j'ai plus de mal. Donc là, j'étais chez moi, quoi. Je suis un dingue de Ray Harryhausen, tu vois. Et,
D'ailleurs, il y a une de ces créatures. T'as le septième voyage de Sinbad. Tu peux voir la créature du septième voyage de Sinbad au tout début du film quand il descend, en fait, dans la nacelle.
C'est laquelle? C'est le cyclope, le
cyclope, exactement.
Ah ouais, ok. Ouais. Mais oui, voilà, trop bordélique dans sa construction. Après, c'est un film d'errance avec des tableaux qui s'enchaînent et qui n'ont pas de réel rapport narratif les uns avec les autres. J'adore le personnage. Le motard, quoi, enfin le qui ressemble à un Warhammer,
l'assassin
un peu.
L'assassin, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Lui, j'aime beaucoup. Non mais dis-moi toi ce que t'en as pensé. Pourquoi ce film? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'emmène dans ce film?
Moi, je vais te donner un peu parce que, encore une fois, j'ai un peu gratté, donc je vais je vais d'abord un peu vous mettre un peu de bonus que j'ai regardé. Donc effectivement, c'est bien inspiré de Bosch et Bruegel, mais aussi il disait t'a-t-il inspiré?
Ah, ok.
Harryhausen et son grand maître, bien sûr, parce que c'est à cause de Harryhausen qu'il a voulu faire de l'animation, enfin en tout cas
du
stop motion. Karel Zeman, je sais pas si tu connais.
Je l'ai noté.
C'est vrai.
Ça me fait penser à du Karel Zeman en plus glauque.
Voilà.
J'adore Karel Zeman.
Et c'est une de ses grandes inspirations.
Je suis dingue de Karel Zeman et j'allais en parler et j'allais te conseiller de découvrir. Et pour moi, c'est du Karel Zeman en moins drôle et plus glauque.
C'est exactement ça. Et même, en fait, il dit donc tout ça, ses inspirations, mais aussi, par exemple, il dit les grottes de Lascaux sont des inspirations. Et en fait, ce qui est mortel avec ce film, c'est là où, un peu comme Paprika, pour moi, ce film me passionne parce que j'ai l'impression de mieux comprendre l'œuvre de Satoshi Kon avec Matt God. Phil Tippett n'a jamais réalisé de film, à part, il a fait un téléfilm qui est Starship Troopers 2. Bon. Voilà. mais c'est surtout, il est très connu pour avoir fait des effets spéciaux. Et en fait, quand tu regardes le film et les bonus du film, c'est aussi long et aussi intéressant, j'ai envie de dire, que le film en lui-même.
Ça m'étonne pas.
Parce qu'en fait, je vais vous lire, j'ai trouvé un petit texte, en fait, qui va vous montrer un peu sa méthode de pensée, et je trouve ça assez génial. C'est un texte qui est pas très loin, mais
Vas-y.
Beaucoup des idées sont volées au rêve. L'imagerie de Mad God n'est pas futuriste, elle est iconique. Nous avons tous ces éléments dans notre esprit collectif. La seule différence réside dans la manière dont l'esprit de chacun choisit de les assembler. Aucune image précise ne vient d'un rêve particulier, mais l'ensemble est influencé par ce type d'expérience. Il est important que le projet ne soit pas dicté par une intention. Je laisse l'œuvre me dire ce qu'elle veut être. Je suis comme un prêcheur dans l'église de Mad God et je fais simplement ce que la divinité me dit. Et il y a ce truc-là, effectivement, dans Mad God, parce que vraiment, ça n'a aucun sens, tu piges rien, c'est un film qui est en totale roue libre, et en fait, même dans la création même du film, ça a été comme ça, c'est-à-dire qu'il a dit, en gros, il dit, cette séquence-là, il y a un verre qui bouge, elle doit faire 500 images. Voilà le verre, je l'ai créé, voilà, bah, c'est la, voilà la forme et tout. Et en fait, il demande à ses animateurs de se démerder avec le reste. Donc en fait, il y a une espèce de liberté totale, de ton, de mouvement dans l'image, si ça fait 200, 500, s'ils ont 8 heures, 5 heures, parce que c'est c'était presque un film bénévole aussi, hein, faut le savoir. Il y a des étudiants d'école d'art qui ont aidé à la création du film. Il y a le Kickstarter qui a été fait. Enfin, c'est vraiment presque une vie entière dans un film. Et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est qu'on ressent bien, effectivement, qu'il a tellement de références, et en fait, ça fait 35 ans qu'il avait le film en tête, et il a pris toutes ses références, il a tout pris comme...
Il en a fait deux courts-métrages à un moment, je crois. Hein.
Il a fait un court-métrage dans les années 90.
Partie 1, partie 2.
Alors, moi, j'avais vu qu'il avait fait un court-métrage de 6 minutes dans les années 90, où c'est la scène où, en fait, t'as l'assassin qui arrive, et t'as un singe qui est accroché, là, après t'as la poupée qui se touche, enfin bon, c'est un peu particulier, là. Mais en tout cas, je trouve que le film est fascinant pour ça, parce que effectivement, tu vois plein de références. Donc c'est en même temps un film très adolescent, étonnamment, mais aussi très mature, parce que Phil Tippett est tout simplement un des grands sages, on va dire, du stop motion, de l'animation et des effets spéciaux.
Mais tu vois, je trouve que il y a deux choses qui questionnent. D'abord, je trouve que la partie live, il aurait pu s'en passer. Je trouve que la force du film, elle est évidemment dans le monde animé, quoi, qui est dingue. Mais bon, ça, à la limite, c'est presque un détail. En revanche, ça pose une vraie question, qui est de dire, voilà, Phil Tippett, il est en fin de carrière, il a tout réussi en tant que FX artiste, hein,
animation,
il a eu un Oscar pour Jurassic Park, enfin bon, c'est une espèce de légende. J'ai le sentiment que il se dit, je ferai un seul long métrage, je mets tout dedans, je m'en fous, je sais que j'arriverai à faire ce long métrage. De toute façon, je ne suis pas réalisateur, je ne serai pas réalisateur. Et résultat,
Et c'est ce qu'il dit dans le documentaire.
Ah, c'est vrai.
Il dit, en fait, j'en ai rien à foutre. Mais littéralement, il dit, moi, diriger, je m'en fous. Moi, ce que j'aime dire, c'est, ça va là, ça fait ça, moi, je crée mes machins, basta.
Ouais, mais tu vois, c'est vachement intéressant parce que en résulte un film qui va forcément rester parce que les images, quelque part, dépassent le film. Il y a tellement d'images dingues que tu peux pas les oublier, quoi. Mais, comme tu dis, la petite poupée qui se masturbe, enfin, c'est des trucs... c'est fou, quoi. Mais au final, c'est terrible parce que c'est pas un très bon film, quand même, quand tu dézoomes.
Ouais, je suis complètement d'accord, mais c'est là où, en fait, ce qui est marrant, c'est que on a Black Dog, qui est un film classique.
Ouais.
Paprika, qui est un film, presque expérimental.
Ouais.
Mais qui a quand même une construction narrative. Ouais. Qui est très pointue. Et le dernier, c'est un film expérimental qui n'a plus aucune narration.
Mais tu vois, il y a un moment où il y a des petits lutins au début qui parlent français et qui balancent trop. Ouais, voilà, c'est le seul moment où il y a vraiment des paroles, je crois.
Quasiment, ouais.
En fait, il y a un côté grotesque, il y a un côté c'est bizarre, quoi. Et j'avoue que moi, je ne suis pas sur le papier friand de ce genre de choses. Quand ça se sent que c'est trop je m'en foutiste dans ce que tu veux raconter. Mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de me dire que j'aimais quand même le film. Donc c'est très très bizarre comme sentiment. Très très bizarre.
Mais il fait c'est pour il me fait exactement le même effet. Ça fait deux fois que je le vois. J'avoue, le deuxième là je l'ai vu hier et je me suis dit deux fois ça fait beaucoup quand même déjà. Mais en même temps je reste fasciné par tout ce qui se passe, malgré le fait que effectivement il y a des scènes mais qui sont tellement longues, la scène de l'horloge là qui dure une éternité, la scène de la chirurgie
où ils trouvent de
l'or.
Ouais, ça je l'ai noté aussi, je suis d'accord.
Et si tu fais,
beaucoup trop long.
Bah c'est la même scène en fait avec l'horloge, je crois. Ouais. Mais c'est pourquoi est-ce aussi long? Ça n'a aucun sens. Et il y a des séquences comme ça qui durent, mais 10-15 sur un film.
Même
qui
la descente au début, hein. Au début.
Ouais, mais alors, moi j'aime bien parce que ça donne un mood un peu particulier.
Ouais,
tu vois, de lenteur et tu sais pas trop ce qui se passe. T'es dans un monde vraiment qui est parce que c'est aussi le truc, c'est que tu sais pas, est-ce que t'es dans un monde post-apocalyptique?
Ouais.
Au début, t'as le Leviticus, ça parle où c'est Dieu qui dit, en gros, je vais tous vous tuer si vous me saoulez. Donc tu sais pas, est-ce que t'es dans un monde post-Dieu? est-ce que t'es dans un truc à la Mad Max, tu sais vraiment pas du tout, et je pense que Phil Tippett ne sait, de ce que j'ai tout à l'heure et de ce qu'il dit, en fait, il en sait rien non plus. Et c'est là où, pour moi, Mad God est en même temps pas un très bon film, et en même temps, une espèce d'œuvre totale. Et c'est là où je peux pas m'empêcher de me dire, j'aime vraiment beaucoup ce film, quoi. Et même si le deuxième visionnage, je me suis un peu fait chier, j'avoue. Je peux pas m'empêcher de me dire, quand même, c'est impressionnant. C'est surtout qu'on voit, on est vraiment plutôt dans la tête d'un artiste.
Aligre FM 93.1.
Un petit détail, s'il fallait chipoter. Tu vois, on parlait de Ray Harryhausen, qui est donc cet animateur de stop motion, qui est un peu, c'est pas le premier, mais c'est un peu celui qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à ce style. Et je trouve que la grande force de Harryhausen, que j'ai découvert sur le tard, grâce au documentaire de Poncé qu'il a co-réalisé, c'est que les objets et les personnages qu'il anime, ils ont des sentiments que tu peux lire sur leur visage. Ils sont très humains, ils ont une certaine humanité en eux qui est bouleversante. Mais vraiment, là, je le dis, c'est bouleversant. Peut-être que ça m'a manqué un peu dans Mad God. Et en même temps, au moment où je te dis ça, c'est aussi pas du tout le sujet de Mad God, quoi. C'est un film qui est poisseux, c'est un film qui est dégueulasse, c'est un film où tu ne peux pas t'attacher au personnage, et t'es dans une espèce de ressenti sensoriel de la gerbe, quoi, sous toutes ses formes. Mais je sais pas, c'est extrêmement divisant, enfin ça divise beaucoup sur ce que tu ressens quand tu vois le film. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas pu m'empêcher d'aller au bout. C'est un peu lent, certes. Mais quand même, quoi. C'est tellement inventif que tu te fais emporter dans le film, quoi. Et j'aime bien le moment où l'assassin, donc, qui est le personnage que j'aime vraiment bien dans le film, quand tout d'un coup il chope une bécane et qu'il chevauche une bécane, tout d'un coup j'ai l'impression qu'il y a un retour dans une narration, dans quelque chose qu'on veut nous raconter. Ça dure pas très longtemps, mais voilà, j'ai ce sentiment peut-être qu'en creux il avait peut-être une histoire et qu'ensuite il s'est complètement lâché.
Je pense que c'est en même temps, oui, c'est un film qui a porté pendant 30 ans et c'est des trucs mis bout à bout, c'est-à-dire que parfois il me disait qu'il mettait des années à construire un décor. Ouais, et franchement, tu vois, les décors, c'est impressionnant. Les décors
sont fous.
Les décors, ils sont immenses, hein. Ouais, c'est pas des petits décors du tout. Mais il y a des moments en même temps, vraiment, il y a un moment de beauté pure et ça m'a, là, en voyant le film, je me rappelais pas du tout et ça m'a vraiment étonné. C'est le moment où l'espèce de, c'est pas un nécromancien, mais une espèce d'alchimiste qui va broyer le bébé. Et qui, en fait, va de la poussière, et d'un coup, la vie va surgir dans un espèce de micro-monde.
Ouais.
Et tout est en couleur, tout est vraiment vif, et d'un coup, tu as l'impression d'être dans Bob l'éponge pendant 2 secondes, avant que ça retombe comme un soufflet.
Ah ouais,
mais il y a ce moment-là, vraiment, de... Il dit vraiment juste, vous voyez, toute cette beauté, en fait, c'est éphémère, et allez, basta, on repasse maintenant au post-apo. Et vraiment, je trouve que le film est comme ça... Ouais, plein d'idées tout le temps, il s'arrête jamais. Et on sent aussi que c'est fait par des gens passionnés, quoi. Et c'est ça qui est assez fort de sentir ça. Tu sens la poisse, la sueur, et en même temps que c'est vraiment des énormes geeks passionnés de faits main.
Ouais, complètement. Film. Et c'est ça qui marche toujours. C'est hyper généreux visuellement. C'est hyper généreux et c'est une énorme expérience. C'est un film à découvrir, c'est un film à voir, c'est sûr. Après, peut-être pas dans tous les moments de sa vie. Je pense qu'il faut choisir quand on veut le regarder. Ouais. C'est un film vraiment, il y a aucune accroche. Enfin, il y a pas d'air, quoi. Il y a aucune, tu peux pas t'accrocher à un poteau, un pilier, un truc pour sortir la tête de l'eau. C'est vraiment un film qui t'emmène dans une espèce de dépression visuelle extrême, quoi.
Et auditive. Ouais,
et auditive.
C'est compliqué. Et alors, pour finir, avant de terminer cette émission, qu'est-ce que t'as pensé, alors vraiment là, maintenant qu'on peut parler des trois films, un peu dans leur globalité, qu'est-ce que t'as pensé, alors, justement, de l'enchaînement des films, ce qui t'a le plus plu reste, du coup, le premier?
Oui, le premier c'était The Plague Dogs.
Ouais, exactement.
Oui, c'est difficile parce que vraiment quand même Mad God, il y a quelque chose qui me retient vers ce film, même si intellectuellement je le trouve raté, en même temps je le trouve très réussi quoi. C'est hyper bizarre en fait comme sentiment.
Ouais.
Donc j'ai envie de te dire que quand même j'ai aimé les trois. En termes de d'émotion, je trouve que The Plague Dogs est le plus juste, le plus dur. Mais après, tu ressens des choses quand même très fortes dans Mad God. Et en termes d'émotion, dans Paprika, j'ai pas ressenti d'émotion très forte. En revanche, il y a des moments comme ça. Je te dis le moment où il traverse le plastique, le moment et qui est un moment très Cronenberg en fait, hein, très Vidéodrome aussi. Hein, et je pense que peut-être que c'est pour ça aussi.
Oui.
Ah, ça c'est dingue.
Prend la peau.
Ça c'est dingue.
Je dis pas trop, mais il y a des moments effectivement. Enfin, les trois films que j'ai pris ont ce truc de matière quand même. Hein, dans les trois, hein, y a vraiment. Ça sue, ça sointe, ça fait mal dans les trois films.
En tout cas, je suis content que tu aies choisi ces films-là. Et j'étais surpris. J'étais assez surpris de ton choix. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je suis content. Et c'est vrai que Mad God, j'aurais pas mis dans un film d'animation, mais évidemment, c'est de l'animation. Et les deux autres, des découvertes, vraiment. Des découvertes et des films qui sont hyper intéressants et qui dépassent quelque part le côté animation. C'est-à-dire que il y a des choses à dire dessus. On peut les comparer à des films live. En fait, je trouve qu'ils tombent pas dans le piège du film d'animation qui, moi, me gêne en général. Avec des gens qui parlent comme des enfants, il y a quelque chose qui ça dépasse tout ça, je trouve. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
Si, complètement. Non, mais écoute, je suis assez content que t'aies pu découvrir ça, et en tout cas surtout que tu les aies appréciés un petit peu, parce que c'est vrai que c'est des films qui moi m'ont marqué chacun à leur façon. Donc c'était un peu le but de cette émission qui était un peu plus tranquille que les autres, on va dire, dans le sens où c'était plus une formule d'été pour faire un peu découvrir certaines choses, pour un peu plus aussi parler de cinéma peut-être un peu plus personnellement. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui.
Non, mais on refera une espèce de partie 2 où tu nous resélectionneras trois films d'animation.
Bah ouais, et pourquoi pas justement les trois films de René Laloux.
Avec plaisir.
On fera comme ça un petit triptyque. Eh bien, écoutez, Popcorn et Banjo, la 10e, c'est terminé, mais vous pouvez nous retrouver sur la radio d'Aligre FM 93.1, sur leur site internet ou encore sur les différentes plateformes. C'est un plaisir de pouvoir voler un peu cette émission. Merci Thomas.
Eh ben, je t'en prie, merci à toi.
Et on se retrouve le mois prochain. Salut.
Salut à tous.
Aligre FM 93.1.